RTVFM présente Faut qu'on en parle, une émission réalisée en partenariat avec La Cove et la ville de Carpentras dans le cadre du programme Linux, limiter l'implication des mineurs dans le trafic de stupéfiants.
Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne d'RTVFM dans votre émission Faut qu'on en parle. Aujourd'hui, nous allons aborder un enjeu majeur pour notre jeunesse et notre territoire, la lutte contre les conduites addictives et les trafics de stupéfiants impliquant des mineurs. Et nous allons essayer de vous présenter d'ailleurs ces structures et dispositifs ressources qui aident à lutter contre ces conduites addictives. Je rappelle que cette émission est réalisée dans le cadre du programme Limits, limiter l'implication des mineurs dans les trafics de stupéfiants. Un projet sélectionné suite à l'appel de la MILDECA, Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues et les Conduites Addictives, lancée en 2024. Et pour lequel la COV, communauté d'agglomération Ventoux-Comtat-Venessin et la ville de Carpentras ont été retenues. Il s'agit d'un programme donc d'action expérimentale qui vise à se déployer sur 3 années jusqu'en 2027. Ces actions ciblent prioritairement les quartiers des Amandiers, les Fans, Sablières et celui du bois de Lubac à Carpentras et vise à proposer un accompagnement et des actions de prévention concrètes à la fois auprès des jeunes concernés et de leurs familles. Et c'est d'ailleurs tout l'objet de notre émission radio aujourd'hui. Dans ce numéro de Faut qu'on en parle, nous allons donner la parole aux jeunes des Amandiers du bois de Lubac. Et ils sont donc invités à s'exprimer librement sur les questions que nous allons leur poser. Donc aujourd'hui, nous recevons donc autour des micros Ryan, Anas et Ovni. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Merci donc d'avoir répondu présent pour participer à cette deuxième émission de Faut qu'on en parle. Et pour encadrer cet échange et pour présenter les structures et dispositifs ressources qui aident à lutter contre les conduites addictives, nous accueillons autour des micros un acteur majeur de la prévention et de l'accompagnement sur notre secteur, monsieur donc Bernard Bertrand, donc qui est coordinateur général Vaucluse de l'association Arc à Sud. Bonjour.
Bonjour.
Et merci donc à vous pour votre présence aujourd'hui. Alors, on va commencer avec une première question pour les jeunes. Est-ce que vous avez déjà entendu parler, ou est-ce que des proches, hein, que ce soit pas forcément vous à titre individuel, est-ce que vous avez déjà entendu parler de professionnels ou structures pour échanger sur la consommation de vous-même ou de vos proches? Est-ce que ça, vous avez déjà entendu des structures? Est-ce que déjà, vous êtes capable d'en citer quelques noms autour de la table?
Non.
Moi non plus.
Non, j'ai jamais entendu.
Alors, on va voir que justement, il y a du travail à ce niveau-là et que M. Bertrand va pouvoir nous éclairer un petit peu plus. Quelles sont peut-être les alternatives, les structures que l'on peut rencontrer, on va dire, plutôt sur notre territoire, hein, puisqu'on là, on va rester vraiment sur Comtat-Venessin, Vaucluse, peut-être la zone d'Avignon. Et quels sont les soutiens qui sont proposés un petit peu aujourd'hui?
Alors, en premier lieu, je dirais que le médecin traitant, le médecin de famille, va être le premier interlocuteur quand on a une question à poser sur une consommation ou une conduite addictive. Après, plus spécifiquement sur les structures spécialisées, on a notamment à Carpentras une consultation jeune consommateur qui est partée par l'étape 84 du groupe SOS Solidarité. Donc c'est un lieu qui est accessible pour les mineurs jusqu'à 25 ans, si je ne me trompe pas. C'est un lieu anonyme, ça c'est quelque chose qui est important, anonyme, confidentiel, où le jeune peut venir seul, ou même les parents peuvent venir, hein, c'est un lieu aussi qui est à destination des parents, où le jeune peut venir accompagner son parent, ou accompagner une personne au choix, en fait, ça peut être son éducateur ou un ami, etc.
Pour vous les jeunes, est-ce que vous avez déjà entendu parler justement par exemple de l'association Étape 84 qui a été citée il y a quelques minutes? Est-ce que vous avez déjà des proches qui seraient allés sur certaines de ces structures? Est-ce que ce serait utile pour eux? Parce que déjà, ça serait utile.
Non, j'ai jamais entendu parler de l'étape 84 et j'ai pas eu de proches qui sont allés voir une de ces structures.
Pour Ovni, pour Anas?
Pareil pour moi, j'ai jamais eu de proches qui sont allés là-bas et j'ai jamais connu à part aujourd'hui.
Moi aussi, je connaissais pas à partir d'aujourd'hui.
Ah ben voilà, donc vous allez apprendre des choses sur cette émission, je sens dans quelques instants. Est-ce que les lieux où se trouvent les structures d'aide, par exemple les hôpitaux, bureaux spécialisés, ça peut être perçu pour vous comme peut-être trop institutionnel? Si par exemple un jour vous consommez ou si des proches ont consommé, est-ce que pour vous c'est quelque chose qui peut être repoussant?
Les hôpitaux?
Oui, par exemple.
Moi je dirais je pense pas. Enfin, par rapport à des personnes jeunes, c'est un peu trop droit pour conseiller un jeune d'aller parler de ses addictions auprès d'un hôpital. Je pense qu'il devrait y avoir donc d'autres structures comme l'étape 84. Des choses plus qui sont plus faciles d'accès.
Plus faciles d'accès. Quand on entend trop droit, c'est effectivement peut-être que ça, c'est le contact est plus difficile. En tout cas, c'est peut-être pas au sein des quartiers directement. C'est peut-être
c'est ça
aussi.
C'est ça.
Faudrait quelque chose directement au sein des quartiers. Est-ce que pour Ryan, c'est quelque chose toi aussi?
Les hôpitaux, oui. Pour moi, ça va être un effet repoussant parce que on ne va pas avoir cette ordre de priorité pour un hôpital. Parce qu'on va voir dire ça va être pour une maladie, se faire soigner ou une blessure, etc., ou une opération, pas directement pour soigner soigner une addiction. Je trouve que faire les structures pour soigner les addictions, c'est mieux parce que c'est plus privé, c'est moins connu du monde et ça va beaucoup plus aider la personne parce que pour ce qui va se passer, si quelqu'un entend ça, ça ne va pas être forcément d'un coup divulgué.
Monsieur Bertrand, est-ce que justement, ce que vous venez d'entendre là, est-ce que c'est ce que vous avez déjà entendu ?
Je suis même assez étonné parce que moi j'aurais dit le contraire, parce que l'hôpital, ça brasse tellement de personnes avec qui viennent pour des pathologies différentes et variées. En fait, je trouve qu'on est plus dans l'anonymat quand on va à l'hôpital que dans les structures spécialisées qui sont spécialisées en addictologie. Donc souvent, en fait, ce qu'on se rend compte, après ça va dépendre des consommations qu'on a. Hein. Par exemple, c'est vrai qu'un jeune qui fume du cannabis a beaucoup plus de mal. Alors je ne parle pas de la CGC qui est fait spécialement pour les jeunes, mais pour ce qu'on appelle les centres de soins qui gèrent aussi les CGC, mais qui sont des structures de soins en addictologie. Souvent, en fait, c'est plus repoussoir parce qu'en fait... le jeune va se retrouver avec des personnes qui ont des addictions bien avancées, héroïne-man, cocaïne-man, machin. Et en fait, souvent, un parent qui va accompagner son enfant, souvent, il va prendre peur. Parce que.
Je veux dire, mais moi, je suis pas dedans. Hein.
Voilà, je suis pas dedans. C'est ça. Alors, je suis assez étonné, mais c'est intéressant. Parce que moi, j'aurais dit plutôt l'hôpital, parce que ça reste plus anonyme, l'hôpital, finalement.
Et alors, on voit qu'effectivement, du coup, l'information, on n'a pas forcément la bonne vision. Hein. Et qu'est-ce qui rendrait justement cela plus accueillant, d'après vous, OVNI, Anas, Ryan ?
Les structures, en soi, ils sont professionnels dans ce domaine-là. Et on nous dit qu'il y a le secret privé. On sait que ce sera anonyme, alors que l'hôpital, on n'est pas trop sûr. Il peut avoir, si par exemple, on est mineur, il va avoir la relation avec le parent, alors que dans ces structures-là, on sait que ça va être 100% anonyme. Le parent ne sera pas mis dedans, et donc je trouve que c'est beaucoup plus rassurant d'aller dans ces structures.
Pour OVNI, Anas ?
Dans ces structures, comme c'est fait pour ça, pour aider le jeune pour arrêter le cannabis ou les produits stupéfiants, du coup ça semblait plus accueillant et comme l'a dit Ryan, pour l'anonymat aussi, si on vient avec un parent, ça serait quand même gênant d'être avec un parent.
Justement, tu parles de parents, est-ce que pour toi c'est la principale peur, j'ai l'impression, en demandant donc de l'aide, est-ce que tes parents sont au mieux au courant ? C'est l'une des principales peurs pour toi ?
Pas l'une des principales, mais elle en ferait partie.
Ok, Anas ?
Moi je pense que pour les jeunes, oui, ça peut paraître comme un frein, parce que...
Tu dis comme un jeune ?
On appréhende comme tous les jeunes, donc on appréhende la réaction des parents, et les parents ne savent pas forcément réagir au bon moment, ni de la bonne manière. Du coup, ça peut représenter un frein pour tous les jeunes qui consomment du cannabis ou toute autre drogue.
Ryan.
Le parent, oui, parce que c'est la personne qu'on côtoie le plus dans notre vie en soi. Et pour un jeune, c'est oui, pour moi, en effet, ça peut être un facteur qui va être un frein parce qu'on n'a pas envie de le mettre, on va pas envie de faire paniquer nos parents ou nous-mêmes nous mettre la pression avec le parent parce que comment va réagir le parent, on ne le sait pas. Va-t-il réagir bien ou mal ? Donc, rester dans l'anonymat et parler avec quelqu'un de sûr et on va dire qu'on ne connaît pas va être beaucoup plus rassurant qu'avec notre parent parce qu'on ne sait pas sa réaction, comment va-t-il se passer ensuite qu'avec un professionnel.
Alors, M. Bertrand, comment réagissent les parents ?
Alors, ça va dépendre des parents, c'est la question. Après, sur la question qu'ils posent, oui, de toute façon, l'anonymat est respecté. Après, les professionnels sont des professionnels de santé, donc avec une obligation du secret médical, de toute façon. Après, ça va dépendre. Est-ce que le jeune, il a été embarqué de force par son parent ? Est-ce que le parent est inquiet parce qu'il a trouvé une barrette de shit dans la chambre du jeune ? Après, c'est le travail des professionnels, c'est aussi d'accompagner les parents et de rassurer les parents aussi.
Donc vous les accompagnez comment, par exemple ? Comment sont accompagnés les parents ?
Alors ça va être des entretiens. Alors ça va dépendre où on en est, hein. C'est pareil, ça va dépendre du parcours, mais ça peut être aussi à un moment donné d'accompagner par des psychologues. Mais d'abord, il y aura un travail, on va dire, plus thérapeutique, d'éducation, sur les rassurer que casser les représentations, c'est pas parce que vous avez trouvé une barrette de shit dans la chambre que votre fils va ou votre fille va devenir héroïne man ou cocaïne man. C'est aussi ça, c'est de rappeler que l'addiction, c'est voilà, comme on a pu en parler, ça n'arrive pas obligatoirement et que, comme je redis, une barrette de shit n'entraînera pas obligatoirement d'autres consommations derrière.
Justement, vous nous parliez de parents, les jeunes, vous avez peur des conséquences des parents, mais est-ce que vous, les conséquences sur la santé, ça peut être important ? Alors, je parle aussi pour les proches, hein, c'est-à-dire que là, vous ne consommez pas forcément de drogue, mais est-ce que pour vos proches, ils ont plus peur des parents ou les conséquences sur la santé ?
Moi, à titre personnel, je dirais que pour la santé, oui, c'est un frein. Parce que c'est mettre ça à danger, ou même pour les proches. On n'a pas envie de perdre un proche parce qu'on s'est mis en danger notre santé. Pour moi, ce serait un frein de continuer d'en consommer alors que la santé est mise en jeu.
Pour OVNI, Anas ?
C'est vrai que la santé, c'est quand même quelque chose, mais je ne pense pas qu'on y réfléchit quand on en consomme. Et je pense plus à la réaction des parents parce que ça fait plus mal mentalement que physiquement.
Et moi, je dirais l'un et l'autre. C'est la réaction des parents, c'est aussi un acteur majeur donc dans cette consommation de cannabis et de drogue. Mais il y a aussi l'effet que ça a sur la santé et que j'ai quand même certains proches qui sont conscients de ce que ça peut engendrer. Et c'est mauvais. Hein.
On voit que le cercle familial, M. Bertrand, c'est assez important finalement dans ce cadre-là. On voit que ça peut avoir un impact assez important.
L'entourage est important dans la question des conduites addictives. C'est pour ça qu'on travaille souvent aussi avec les proches, avec les aidants. Disons, on va parler des aidants à un moment donné quand il y a, quand on est marié, par exemple, ou frère, etc. Ils ont un rôle important en fait dans la suite, en fait. Et par rapport aux parents, les questions qui se posent, qui est normal, hein, on a tous peur de nos parents quand on était ados, notamment de leur réaction. En fait, on sait pas, on imagine en fait que nos parents pourraient faire. On n'en sait souvent pas. Des fois, les réactions des parents sont différentes. Alors nous, quand on travaille, c'est d'en parler. En fait, l'idée, c'est de faire de la réduction des risques. Quand on est parent, ça nous semble assez important. De toute façon, l'ado, s'il a envie de dépasser ses limites, de consommer, de rouler vite en voiture, on ne pourra pas y faire grand-chose s'il a envie de le faire en tant que parent. En tant que parent, c'est de les prévenir, de réduire les risques, ce qu'on appelle réduire les risques, sur ce qu'on a parlé tout à l'heure des risques, c'est de les informer sur les conséquences. Voilà.
Et alors, je vais rester avec vous, M. Bertrand. Comment est-ce qu'on concilie, comment est-ce que vous le faites, vous, la nécessité d'une démarche d'aide, donc avec les notions de confidentialité, de gratuité, d'écoute sans jugement, vous en parliez un petit peu tout à l'heure. Et est-ce que justement ces trois piliers sont des arguments principaux pour encourager donc, à franchir le pas ?
C'est important. Le fait que, alors on va parler des stupéfiants notamment, hein, puisque après il y a aussi les drogues licites qui sont, on peut apporter des choses différemment, mais sur les stupéfiants, en fait la loi dit qu'on est un délinquant. Donc de toute façon, s'il n'y avait pas la confidentialité, on prend le risque d'être à un moment donné interpellé en sortant d'une structure d'addiction. Je caricature quand je dis ça, mais c'est des choses qui pourraient arriver, puisqu'on consomme des stupéfiants et que la consommation est interdite par la loi. Donc l'anonymat, la représentation qu'a la société, notamment on le voit dans les médias régulièrement, hein, sur comment on parle des personnes qui consomment ou comment on les montre, notamment on montre souvent ceux qui sont à la rue, précaires, etc., où il y a des fois des troubles psychiques ou voire des agressions, c'est ce qu'on montre à la télé. Donc ça nous mène une représentation qui est pas qui est réelle, mais qui n'est pas seulement celle-là. Donc la représentation de la société fait qu'on va se cacher, et c'est aussi le fait, c'est ça qui fait qu'on va pas aller demander de l'aide. Donc l'anonymat, la confidentialité est hyper important dans notre métier en fait.
Et justement, vous en parliez un petit peu tout à l'heure, vous les jeunes, quand vous disiez vous allez à l'hôpital, vous n'êtes pas sûr que ce soit pas, finalement l'information ne soit pas transmise aux parents. Est-ce que pour vous, les notions de confidentialité, de gratuité et d'écoute sans jugement, c'est important ? Je vais commencer avec Ryan. Ou par téléphone, hein, tu peux aussi
oui.
Par téléphone.
La confidentialité, oui, ça va être beaucoup plus attrayant de venir, parce que du coup, l'écart des parents va être mis en place. Et si on n'a pas envie d'avoir du monde autour et qu'on veut garder ça pour nous et pouvoir avancer et s'en sortir tout seul, oui, c'est la confidentialité pour moi, c'est une mise en avant. Et que ce soit gratuit, aussi également, parce que ça dépend. Il y en a certains qui n'ont pas l'argent pour se permettre de pouvoir sortir de l'addiction, parce qu'il y en a qui veulent pour leurs proches, par exemple, et du coup, garder cette affaire pour eux, et du coup, la confidentialité est leur mise en jeu. Aussi, également, leur santé à eux, vouloir avancer et pas de se mettre en danger plus qu'ils ne sont.
Pour OVNI, Anas, est-ce que vous aussi, c'est important ?
Pour moi, la confidentialité, c'est important, parce que d'après tout, la consommation, c'est pas une fierté de cannabis ou de produits stupéfiants. Mais après tout, aussi, c'est bien aussi que ça soit gratuit, parce que pas tout le monde a les moyens, ou comme ça, c'est tout.
Anas ?
Oui, pour moi, c'est important que les trois choses soient réunies, dans le sens où la confidentialité, c'est ce que l'on craint le plus, surtout par rapport aux parents, comme je disais tout à l'heure. Que ça soit gratuit, oui, parce qu'en tant que jeune ou même en tant que mineur, on n'a pas forcément les moyens, même si on a envie d'arrêter, de franchir le cap, on n'a pas forcément les moyens. Oui, pour moi, c'est important.
Allez, ce que je vous propose sur l'antenne d'RTVFM, c'est qu'on va faire une courte pause musicale et on va revenir dans cette émission Faut qu'on en parle, où on parlera notamment, donc on essaiera de vous présenter les structures et dispositifs ressources qui aident à lutter contre ces conduites addictives. À tout de suite sur l'antenne d'RTVFM.
Vous écoutez RTVFM, la radio locale de Carpentras en DAB+.
I did that day.
Et de retour dans l'émission Faut qu'on en parle. Aujourd'hui, on aborde un enjeu majeur pour notre jeunesse et notre territoire, la lutte contre les conduites addictives et les trafics de stupéfiants impliquant des mineurs. Et aujourd'hui, on vous présente les structures et dispositifs ressources qui aident à lutter contre ces conduites addictives. Et toujours pour en parler, nous recevons autour des micros Noam, Bilal et Yacine. Et puis, nous avons toujours notre professionnel qui est avec nous, donc de Arca Sud, monsieur Bernard Bertrand. Alors, première question qu'on va poser un petit peu aux jeunes cette fois-ci. Si vous aviez seulement un conseil essentiel à donner à un ami qui a une addiction à un produit psychoactif, quel serait-il ?
Pensez à arrêter déjà, parce qu'il y en a, ils consomment des drogues, ils ne pensent pas à arrêter forcément. Genre, pensez à arrêter parce que c'est quelque chose qui prend du temps. C'est quelque chose, ça met du temps à se détacher, tout ça. Ça veut dire déjà, à partir du moment où la personne dans sa tête, elle se dit qu'il faut qu'elle s'éloigne de ça, eh ben, c'est déjà un bon pas.
Pensez à s'arrêter, parce qu'ils n'y pensent pas du tout.
Ouais, il y en a. Et ben, y en a qui consomment des drogues, ils ne pensent pas forcément à arrêter.
Et on expliquerait un petit peu. Et quand vous dites penser à s'arrêter, est-ce qu'il faudrait qu'ils pensent plus loin aussi ? Comment faire justement pour arriver à s'arrêter ?
Voilà, c'est ça. Mais la première option, le premier truc de départ, c'est penser à vouloir arrêter. C'est qu'on le veut. Si on ne veut pas arrêter, on n'arrête pas. Mais même si on veut arrêter, on n'arrête pas. Ça veut dire déjà, si on a envie d'arrêter, c'est un très bon pas.
Bilal, est-ce que toi aussi, est-ce que tu as peut-être un conseil à donner ?
Il faut qu'il ait envie d'arrêter.
Il faut déjà qu'il ait envie d'arrêter. Ouais. Donc tu penses que toi, s'il n'a pas envie, tu auras beau dire quelque chose, tu n'y arriveras pas.
Ouais, s'il n'a pas envie, okay. Il ne va jamais arrêter.
Ça marche. Monsieur Bertrand, on retient toutes les infos, hein, c'est pas mal. Et pour Yacine ?
Moi, je pense qu'il faudrait qu'il pense aux effets secondaires, les effets nocifs que ça procure, les effets à long terme et à court terme, ce que ça pourrait aussi engendrer derrière. C'est-à-dire au niveau familial, au niveau social, etc. Prendre du recul, surtout prendre du recul et réfléchir.
Alors justement, Monsieur Bertrand, est-ce qu'un conseil, ça suffit ?
Non, et je vais juste reprendre. Alors, à partir de d'où on parle en fait de la personne, c'est est-ce qu'elle est sur une consommation simple ou une consommation avec une conduite addictive ? Ça va être deux choses différentes. Une consommation simple, entre amis, on peut lui dire oui, peut-être... tu pourrais penser à arrêter. Là, il n'y a pas d'addiction, donc la personne peut l'entendre. C'est-à-dire, en sachant que souvent, on est souvent les moins bien placés en tant qu'amis ou en tant que parents pour donner des conseils. Après, quand on parle d'addiction, c'est beaucoup plus complexe que ça. On va travailler. Alors, le côté d'envie, pas envie, ça, quand il y a addiction, ce n'est pas une question d'envie, de pas d'envie. Même si on a envie, quand on est malade de l'addiction, ça ne fonctionne pas. Quoi. C'est comment on va travailler avec la personne, comment on va l'accompagner. Dans son projet, c'est elle, qu'est-ce qu'elle a envie. Nous, on va travailler là-dessus. Et le côté d'arrêter n'est pas obligatoirement la réponse pour la personne. C'est-à-dire qu'on va, à un moment donné, c'est peut-être seulement de retrouver une consommation acceptable pour elle. Et c'est là-dessus qu'on va travailler. Le sevrage ou l'abstinence totale qu'on souvent on entend dans les médias ou nos politiques notamment mettent en avant, c'est pas la réponse qu'on donne, en tout cas sur le terrain. Nous, on va travailler avec la personne sur son projet, et son projet, ça peut être juste de retrouver une consommation acceptable.
Alors je vais me retourner vers les jeunes. De manière très concrète, qu'est-ce qui aiderait le plus ? Alors soit vous, hein, soit vos proches, soit des connaissances, hein, pour prendre une décision visant à limiter, soit augmenter votre consommation d'un produit. Est-ce que par exemple c'est le prix qui va permettre de limiter un petit peu tout ça ? Est-ce que c'est l'avis d'un ami ? Ou est-ce que c'est une information choc ? Par exemple, on peut avoir des messages écrits, etc. Est-ce que c'est quelque chose ? Est-ce que vous avez peut-être une petite idée ?
Ça peut aider beaucoup de gens à arrêter. J'ai vu des gens arrêter comme ça. Genre quelqu'un qui va attraper une maladie très proche de lui. Parce que quand on l'entend de loin, on se dit ça arrive aux gens comme d'habitude. Mais quelqu'un de proche de lui qui va attraper quelque chose, il va se dire ouais, je fais la même chose que lui tous les jours, il peut m'arriver la même chose demain. Et ça peut faire un choc. Ça peut beaucoup aider.
Exactement.
Même si c'est pas le but.
Aussi rebondir sur ce que vous avez dit, l'aspect financier. Ça coûte aussi, surtout faire le bilan, voir à peu près combien on a dépensé, etc. Prendre du recul et surtout améliorer ça.
Donc le prix, pour toi, ça peut avoir une...
C'est un aspect qui rentre en compte. Après, il y en a plusieurs. Hein. Il y a aussi comme...
qui permet de limiter un petit peu.
Voilà, exactement. Comme Noam l'a souligné aussi, l'aspect au niveau de la vie.
L'information choc, donc effectivement. Ou alors un proche, hein, on a pu avoir un décès, malheureusement, proche, etc. Ça peut être une information choc et qui dit, on va s'arrêter du coup. Est-ce que Bilal, tu es d'accord avec ça ?
Totalement d'accord.
Est-ce que tu as déjà eu, toi, des personnes autour, ou en tout cas, qui se sont arrêtées déjà de consommer ? Tu n'as pas eu de personnes qui se sont arrêtées de consommer, grâce peut-être à une information choc ? Pour Yacine ?
Si, peut-être, mais pour lui, pas pour un proche ou quoi.
Bon, lui, il a appris quelque chose.
Voilà, et c'est, exactement.
Oui, ça, ok. Monsieur Bertrand, justement, à ce sujet, est-ce qu'on a un petit peu des... est-ce qu'il y a certaines décisions qui vont, on disait, au niveau choc, information choquante, est-ce que c'est quelque chose?
Ben, si on prend l'exemple des paquets de cigarettes avec les photos un peu dégueulasses qu'on peut avoir, est-ce que ça fonctionnait? Je ne sais pas. Moi, j'étais fumeur, ça ne m'a pas spécialement marqué plus que ça. Je ne les regardais même plus au bout d'un moment. Je ne sais pas, ça a dû fonctionner, hein, puisqu'on a pris l'exemple, il y a des études qui ont montré le fonctionnement, donc ça a dû marcher. Après, le côté choc, souvent, ça a un effet immédiat. En général, quelques semaines après, on l'oublie. Le côté notre cerveau, il est assez. Il fonctionne de manière d'oublier tout ce qui est violent. Et ça fait partie du système de l'addiction aussi. C'est-à-dire qu'il se souvient que le côté plaisir, le cerveau. Donc, l'opération choc va marquer sur le coup, même si c'est un ami, etc. Trois semaines après, le cerveau, il est passé à autre chose.
Mmh. Oui, donc. Et le prix, est-ce que ça peut?
Alors, le tabac, ça fonctionne. Mmh. Mais après, sur les produits stupéfiants, ça fait un peu partie du sujet d'aujourd'hui, c'est l'argent, comment on le trouve après. C'est-à-dire qu'on va peut-être entrer dans des pratiques de délinquance, pour, en tout cas sur les stupéfiants, pour obtenir son argent.
Pour s'en procurer, par exemple. Voilà. Est-ce que les amis sont vus comme une aide ou un obstacle, justement, dans l'arrêt de la consommation?
Les deux. Si tu as des amis qui consomment, c'est un obstacle. Si tu as des amis qui ne consomment pas, ils peuvent que t'aider.
C'est ça, il faut savoir s'entourer des bonnes personnes. S'entourer, enfin, faut prendre les bonnes décisions pour arrêter. Enfin, si on reste avec des gens qui fument et qu'on essaye d'arrêter, ça va être plus compliqué que si on reste avec des personnes qui ne fument pas et qui nous poussent du coup à arrêter.
Est-ce que vous avez déjà vu un ami justement être aidé par... Alors on parlait de structure tout à l'heure. Est-ce que vous avez déjà vu un ami qui a été aidé par une structure? Alors qu'on entend structure, hein, c'est structure d'EBS, style par exemple étape 84.
Non, moi personnellement j'en ai pas, mais je pense que c'est une bonne solution et ça peut être... quelque chose de bien pour les personnes qui sont justement à la recherche d'arrêter ou de réduire leur consommation. Ça peut être une bonne aide, mais je pense aussi qu'il faudrait trouver quelque chose à ces personnes qui, comment dire, parce que c'est une addiction, elles sont dépendantes de quelque chose, trouver une chose qui procure à peu près la même chose, pas avec les mêmes effets nocifs, c'est-à-dire.
Ok, et alors justement, on va parler un petit peu pour un jeune qui souhaite s'en sortir. Au-delà du soin, donc là on a parlé beaucoup de tout ce qui est addiction, hein, mais il existe aussi des structures qu'on va appeler des structures de confiance. Quel est le premier relais finalement, quel est le premier levier de réinsertion? Est-ce que c'est la formation? Est-ce que c'est l'emploi? Est-ce que c'est le logement, M. Bertrand?
Ça va dépendre d'où on part avec le jeune. En fait, tout ce que vous avez cité peuvent être des pistes, hein, mais après ça va dépendre d'où on part avec le jeune. Le logement, est-ce qu'à 14 ans ou 15 ans, le logement...
Oui, on est plutôt chez les parents en voilà. Général, encore.
Après ça va dépendre, voilà, ça va dépendre d'où le jeune en est dans sa consommation. Ça peut être l'insertion, hein, ça peut être la formation, l'insertion, le travail qui peut être fait aussi sur le terrain par les éducs ou les associations qui accueillent les jeunes. Alors là, la question est assez compliquée parce que ça va dépendre vraiment du jeune, d'où il en est dans sa vie et dans ses consommations.
Alors là, autour de la table, vous êtes sur certaines structures, mission locale par exemple, ou encore on pense à un centre social comme Ville-Marie. Est-ce qu'il y a d'autres structures ressources, M. Bertrand, d'aide généraliste qu'on peut citer aussi sur le territoire?
Alors, il y a la maison des ados. Alors, je sais que leur bureau est à Avignon, mais ils sont sur différents... je sais qu'ils ont un bureau à Lille-sur-la-Sorgue, à Cavaillon. Après, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, la maison des ados. Toutes les structures, en fait, qui peuvent accueillir spécifiquement les jeunes et les ados ou les jeunes adultes sont des relais de confiance. En général, les jeunes, ils ont leur référent. Alors, leur référent, c'est un grand mot, mais en tout cas, ils ont un adulte avec qui ils peuvent parler. Et pour moi, c'est cet adulte-là qui peut être le relais, en tout cas déjà sur l'écoute, l'accueil de l'information, et puis après, pouvoir orienter au mieux le jeune.
Et alors justement, pour vous qui êtes autour des micros, tous les trois, les jeunes, là, Noam, Bilal et Yacine, qu'est-ce que vous attendez le plus d'un professionnel? Est-ce que c'est qu'il vous écoute, qu'il vous donne des solutions pratiques, par exemple trouver un job, un logement, ou qu'il vous aide à comprendre, si vous consommez, en tout cas si vos proches consomment, comprendre pourquoi est-ce que vous consommez?
Moi déjà, dans mon cas, moi j'ai connu l'association de la Dune. Donc l'association de la Dune, ils m'ont aidé personnellement, ils m'ont parlé, ils m'ont écouté, plusieurs choses qui m'ont aidé à plus avancer.
Tu l'as conseillé toi aussi à d'autres, peut-être, d'autres collègues à aller vers Dune?
Bien sûr. Oui, bien sûr. Et ouais, parce que c'est eux qui m'ont aidé personnellement dans mon cas.
Ils t'ont aidé à
plusieurs choses, à me remettre dans la vie stable, par rapport à la consommation personnelle, comme vous avez dit.
À s'insérer professionnellement aussi, avec notamment des chantiers éducatifs. Pas mal de choses qui sont mises en place pour nous aider à trouver une entre guillemets routine et ne pas rien faire. Parce que c'est ça qui favorise aussi notamment la consommation de stupéfiants. On sait que c'est surtout des personnes qui ne font rien, qui essayent de faire passer le temps par ça.
Monsieur Bertrand, est-ce que justement, à ce niveau-là, il y a des événements qui font qu'ils se disent qu'il faut arrêter, il faut changer ?
Alors, ça va dépendre, ça revient, ça peut être une hospitalisation, ça peut être une overdose, une contamination par le VIH par exemple, ça peut être des choses brutales comme vous disiez tout à l'heure, mais c'est pareil, ça reste à la marge quand même.
Est-ce qu'on aurait peut-être oublié de présenter certaines structures aussi, dispositifs qui peuvent aider à lutter contre les ressources addictives ? Est-ce qu'on aurait d'autres ?
Alors, tout à l'heure je parlais du médecin généraliste qui pour moi le soignant qui est le plus présent en tout cas sur l'ensemble des territoires, même si on a des déserts médicaux, qu'il y a moins de médecins généralistes, etc. Mais après on a donc la CJC, comme je disais tout à l'heure, consultation jeunes consommateurs. On a les consultations hospitalières addicto, hein, donc à l'hôpital, des services spécialement, donc il y a Avignon, Orange, Pertuis, etc. Il y a les XAPA, les centres de soins spécialisés en addictologie. Donc les deux bureaux, il y a deux XAPA en Vaucluse, donc le groupe SOS qui gère l'étape notamment. Et il y a le XAPA Addicto France. Et qui tiennent aussi des permanences différentes. Par exemple, il y a Addicto France qui va ouvrir une consultation alors pour les adultes, donc jeunes adultes, 18 ans, prochainement à la sur Carpentras. Il y a, sur l'insertion, il y a Tapage, par exemple, Tapage qui est pour les jeunes, justement, 15-25, qui est une structure alors, qui est gérée par le XAPA du groupe SOS Solidarité, qui est pour les jeunes qui ont des consommations. Des consommations avec addiction ou sans, mais avec qui sont très éloignés dans la précarité ou qui utilisent l'insertion pour ramener le jeune vers le soin. Et ce sont un programme aujourd'hui national qui vient de Montréal et qui propose par l'insertion ce qu'on appelle du bas seuil, 3 heures de travail. Où le jeune, même s'il ne vient pas, par exemple, au bout d'une heure, il en a marre, bah, il n'est pas éjecté du programme. Il peut revenir à la troisième heure. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des vrais contrats de travail, avec des fiches de paie, des contrats de travail, et le jeune est payé à la fin de la journée.
Pour presque terminer cette émission, pour vous les jeunes qui êtes autour des micros, est-ce que déjà vous feriez appel potentiellement à des structures, vous conseilleriez des structures que vous avez pu entendre aujourd'hui, est-ce que vous jugerez que ça serait utile ? Et quel impact ça pourrait avoir ?
Il a parlé de Tapage. Tapage, moi, la Dune, il me l'avait proposé. Et c'est quelque chose qui peut aider aussi, puisqu'on travaille, on ne fume pas. C'est-à-dire, ils vous font faire des horaires, ils font travailler à votre rythme, et ils ne vous font pas galérer. Et en fait, c'est juste de faire un travail sur soi-même. Et franchement, c'est bien.
Un travail sur soi-même. Alors, comment on fait un travail sur soi-même ?
Par exemple, on travaille, et genre, ils vont nous faire travailler, ils ne vont pas nous faire galérer. Ils vont plus essayer qu'on se concentre, et pas qu'on pense qu'à fumer.
Oui, parce que c'est ça le problème finalement de l'addiction, effectivement, c'est qu'on va penser sans arrêt à vouloir fumer.
Ça fait partie des choses, l'addiction fait partie de ce qu'on appelle, il y a le craving, l'envie irrésistible, mais il y a le côté de, il y a une dépendance, donc quand il y a dépendance, on ne peut pas se passer du produit. Donc c'est vrai que souvent, on va remplacer, c'est des grands mots quand je vais dire ça, mais on va remplacer une addiction par autre chose.
Yacine.
Je pense aussi qu'il faut surtout se poser des questions à soi-même. Vous avez parlé de travail sur soi-même. Je pense qu'il faut se poser des questions sur soi-même, se poser des questions sur pourquoi on consomme, pourquoi on n'est pas bien quand on ne consomme pas, chercher là où il est réellement le problème pour justement y remédier.
Alors en conclusion de cette émission, si un jeune nous écoute en ce moment même, quel est le premier geste concret qu'il devrait faire pour demander de l'aide, un numéro de téléphone, un lieu ?
Je dirais de contacter la consultation jeunes consommateurs CJC, donc au 04 90 86 52 47, ou de contacter Arca Sud, que ce soit un jeune ou même un professionnel, hein, au 04 88 926 888.
Nous arrivons donc déjà au terme de l'émission Faut qu'on en parle, consacrée aujourd'hui à la lutte contre les conduites addictives et trafic de stupéfiants impliquant des mineurs, et plus précisément les structures et dispositifs ressources qui aident à lutter contre ces conduites addictives. Je tiens à remercier très sincèrement notre professionnel, donc Bernard Bertrand, coordinateur général Vaucluse à l'association Arca Sud. Merci d'être venu dans notre émission. Un grand merci aussi aux jeunes qui ont participé à cette émission, Noah, Benjamin et Naïm. Et puis rappelons que cette émission a été réalisée dans le cadre du programme programme LIMITS, limiter l'implication des mineurs dans les trafics de stupéfiants, un projet sélectionné suite à l'appel de la 1000DK lancé en 2024 et pour lequel donc la COV et la ville de Carpentras ont été retenus. L'objectif de LIMITS, c'est d'accompagner donc des actions de prévention concrètes pour les jeunes et leurs familles, mais aussi donc on va remercier les partenaires de ce projet: Arca Sud, Étape 84, la mission locale, les centres sociaux Ville-Marie, Loutricadou et l'association Dune, ainsi que la COV. Merci à tous les acteurs mobilisés. C'était votre émission Faut qu'on en parle sur RTVFM. À très vite sur nos ondes. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
C'était Faut qu'on en parle, une émission réalisée en partenariat avec la COV et la ville de Carpentras dans le cadre du programme LIMITS, limiter l'implication des mineurs dans le trafic de stupéfiants. Et à réécouter dès maintenant en podcast sur notre site www.rtvfm.net.